Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bienvenue dans Radio Foot International sur RFI en cette fin de journée pour vous parler de football, bien sûr, et de ces colchoneros sur le toit de l'Europe aux dépens d'un Real Madrid triple vainqueur de la Ligue des Champions. L'Atlético Madrid a remporté hier soir la Super Coupe d'Europe grâce à un excellent Diego Costa, auteur d'un doublé. Ce septième titre pour Diego Simeone donne le ton des ambitions de l'autre équipe madrilène, alors que les merengues doivent se reprendre sans CR7 et surtout avec le successeur de Zizou. Le calcio de retour sur les pelouses d'Italie dès demain avec la Juventus et sa superstar Cristiano, objet de tous les regards de la presse et des tifosi. La vieille dame aux 7 titres consécutifs de champion a-t-elle encore l'appétit pour le Scudetto ou bien son appétit s'est-il élargi à l'horizon européen? Nous en parlerons. Qui pourrait aussi ravir le titre de champion national à cette vieille dame? Quels sont les adversaires napolitains, romains ou milanais les plus crédibles? Eh bien, Matteo Cioffi nous en dira plus. Pour l'instant, un grand salut, un grand merci aussi à quelqu'un qui revient physiquement dans notre studio, même s'il ne nous avait jamais quittés. David Lortolari, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Je ne cache pas ma joie.
L'exil, c'est terminé.
Absolument.
Bon, pour tout vous dire, ça fait 15 mois qu'il s'était exilé dans le Grand-Duché du Luxembourg, dans les vertes collines.
Tout à fait.
Il n'y avait pas de...
Ça n'a pas changé. Il y a plus d'immeubles qu'il y a 20 ans, mais ça reste vert quand même encore.
Et ça reste aussi un peu tranquille.
Oui, différent.
Différent. Eric Rabé-Sandratana, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Notre camarade, ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui est avec nous. Et puis, Carlos Pizarro, buenas tardes.
Buenas tardes Annie, oui, bonjour à tout le monde.
On a besoin de votre éclairage aujourd'hui pour évoquer ces clubs de Madrid. Enfin, nous rejoindrons donc tout à l'heure Matteo Cioffi en Italie. Pour l'instant, Radio Foot, c'est parti.
Segundo palo, gol de Karim Benzema. Gareth Bale volvió a ser.
Sí, yo no sé lo que ha pitado.
Sí, lo ha pitado. Sí, lo ha pitado.
Cartulina amarilla por las protestas. Sí, ha pitado penalti de Juanfran. Lo quiere tirar Sergio Ramos.
¡Pea! Gol de Sergio Ramos que pone por delante en la Supercopa al Real Madrid.
Enfermedad, Juanfran dentro del área. Correa, corre hacia atrás. Atención a esa pelota para Tomás Partey y se la da Diego Costa, la pone atrás.
¡Golazo espectacular de un tipo que no se ha de hacer goles feos! Saúl Ñíguez acaba de colocar una volea descomunal.
Le cierran tres hombres, juega para Vitolo, Vitolo para Coque.
Descommunal, hein, on retiendra ce terme, un but descommunal, donc pas très commun. Diego Costa a donné le la de la rencontre hier soir, dès les premières secondes, donc en inscrivant le premier but de la partie, celui des Colchoneros. Le la peut-être aussi des ambitions affichées de cette équipe madrilène au maillot rayé, l'autre. Donc, après plusieurs années passées à la lutte avec le Real et le Barça, l'objectif de gagner des trophées, eh bien, on a l'impression qu'il se rapproche. Parlons d'abord du match Carlos Pizarro. C'était descommunal, donc, mais c'était peut-être attendu, la victoire de l'Atlético.
Je sais pas si c'était attendu, parce que la pré-saison, il était un petit peu bluff pour l'Atlético de Madrid. Vraiment tous les matchs, il a perdu, il a fait match nul et tout ça. Il est Real Madrid, il venait vraiment pratiquement de gagner tous les matchs. Donc attendu, on n'a pas attendu. C'était un match vraiment fou, avec beaucoup de manques aussi, parce que les équipes, ils sont pas au top par rapport au niveau de jeu, physique aussi, on voit bien. Mais après, on a vu des choses hyper sympas pour être en 15 août. En tout cas, hein.
Ah oui, parce que le 15 août, on se repose.
C'est un match vraiment, c'est un match qui vient trop tôt, à mon avis, il vient trop tôt c'est un match qu'on devrait jouer un petit peu plus loin, même quand la saison il est déjà démarré pour faire un petit peu, pour attirer un petit peu plus les supporters et tout ça. Mais en tout cas, on a vu un match hyper sympa avec 6 buts.
Ouais, et vraiment, le derby madrilène donnait plus d'enjeux, plus de piment finalement à ce match.
Oui, on peut chercher même les revanches de l'Atlético Madrid qui avait perdu les deux finales de la Ligue des Champions aussi. Ils sont allés chercher un petit peu la presse par rapport à ça. Mais vraiment, on a vu une autre attitude. C'était un changement d'attitude. Et l'Atlético de Madrid, vraiment, il nous annonce qu'il est une équipe pour jouer à tout. La Coupe des Rois, la Liga et la Champions League, évidemment.
Ouais, on va y venir. Sur ce match, Eric, parce que on regardait les statistiques tout à l'heure ensemble, ouais. C'est vrai que le Real n'a pas non plus été ridicule.
Non, ils n'ont pas démérité, mais c'est vrai que c'est sur l'impression générale. C'est pour ça que, Carlos, je le rejoins. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils ont pris le relais sur le Real, l'Atlético de Madrid, et qu'ils vont s'affirmer comme un vrai prétendant au titre et même à la Ligue des Champions, parce que cette équipe est très équilibrée, que ce soit défensive, déjà le gardien, puisque le gardien est très fort.
Il y a une certaine stabilité, voilà. Mais avec des renforts quand même, notables.
Ouais, quel renfort.
En plus, voilà, des grands renforts, mais surtout, il y a cette continuité, il y a ce travail toujours collectif, hein. On sent qu'il laisse le ballon à l'équipe d'en face, et puis on va essayer d'aller jouer en contre, et puis il y a une grande maîtrise, et puis il y a un coach que j'adore.
Le troisième but de l'Atlético,
deux derniers buts sont magnifiques, et moi j'aime bien. Simeone, parce que c'est vraiment il communique sa motivation et j'allais dire sa hard,
tout en étant en haut du stade.
Il est encore suspendu pour deux autres matchs. Hein, les punitions
Costa,
avec lui.
Diego Costa, il a joué avec Cristiano Ronaldo hier. Tu vois, vraiment, mais dans l'équipe inverse, parce qu'il était impliqué dans les 4 buts, carrément.
Ouais.
Et il a joué beaucoup moins de matchs que les autres. En plus, c'est son deuxième ou son peut-être son troisième là depuis qu'il a repris là.
Ouais, Diego Costa, oui. Ouais. Alors on savait que c'était l'homme, qu'avait façonné Diego Simeone dans son équipe. Allez, avant qu'il ne parte à Chelsea et puis il revient, on a l'impression de retrouver un peu le même personnage, David.
Formidable match
finale.
D'abord, ouais. Parce que on disait à l'instant que ça vient tôt dans la saison. Bien sûr, c'est vrai, je suis d'accord. Mais alors quand même, c'était assez incroyable comme match. C'était déjà presque, c'est une finale
c'était
quelque
assez
part.
Équilibré, hein, je trouve.
Oui,
aussi,
oui, je trouve que vous êtes peut-être un peu hâtif dans votre façon d'envoyer le Real déjà derrière l'Atlético.
Ah non, pas déjà.
Le 15 août, en tout cas. Sur l'avenir.
Voilà, c'est pour ça que c'est trop tôt. C'est pour faire des analyses.
Oui, parce que c'est vrai que l'absence de Cristiano, forcément, côté Real, ça modifie l'équipe. Et il m'a semblé, moi, par moment hier, que dans un match comme ça, le Real pouvait, pour l'avenir, être plus dangereux, même collectivement, avec plus d'endroits dangereux. Un Benzema, peut-être, avec plus de responsabilités. Peut-être les gars autour aussi. Ça va modifier le Real en profondeur, mais ça va peut-être aussi quelque part lui faire du bien.
On va parler justement du Real avant de revenir sur l'Atlético, parce que Casemiro, à qui on a posé la question, évidemment, est-ce que Cristiano vous a manqué, puisqu'il leur a manqué 2 buts, au moins, à ces joueurs melengués, eh bien, il a à la fois répondu à la question et à la fois évacué la question.
Nous devons être honnêtes à propos de Cristiano Ronaldo. Il manquerait à n'importe quelle équipe. C'est un grand joueur qui est devenu le meilleur du monde au Real, mais c'est maintenant du passé. Nous ne pouvons pas continuer à parler de lui.
Voilà, le débat est clos, il est plus là, mais évidemment il leur manque. Peut-être aussi que le fait qu'il y ait un nouvel entraîneur, c'est plus Zidane, et même pour ce groupe, on ne peut plus aguerri, on ne peut plus expérimenter triple champion d'Europe, il faut quand même se remettre un peu en question, j'imagine, Carlos.
Ici, si, c'est pas la priorité des Real Madrid, qui maintenant, vraiment, ils cherchent un central. Ils cherchent pas un buteur, ils cherchent pas un neuf, vraiment, pour le moment, même après les matchs. Mais pour revenir, David, je te dis que c'était très tôt, parce que de la même façon que tu as dit que le Real Madrid, on attend un petit peu plus de lui et qu'on va voir avec tout ce qu'ils ont fait, on peut avoir une capacité beaucoup plus grande pour l'avenir. Le même pour l'Atlético de Madrid, parce que hier, j'ai dit qu'il y avait des joueurs qui n'étaient pas là. Griezmann, il a joué, mais Griezmann n'était pas là. Oui. Si Griezmann, que c'est vraiment quelqu'un de très important dans l'équipe de l'Atlético de Madrid, il arrive à être, j'imagine pas les scores.
Mais là, il avait très peu de jours après la reprise, en fait, avec les vacances.
Mais des deux côtés, Casemiro, qu'il vient de parler, il n'était pas là. Ramos et Varane, à la fin, ils ont fini les matchs vraiment fatigués, ils ont ouvert pas mal d'espace. Donc, il y avait des choses hyper positives. Il y avait des autres joueurs qui étaient là, que par exemple le cas de Lemar, que toute la presse espagnole y parle aujourd'hui, vraiment c'était l'homme, un des hommes des matchs. Vraiment on dirait qu'il a joué l'Atlético de Madrid pendant 5 ans, qu'il venait même pas de jouer au Monaco. Le cas de Rodri qui vient de Villarreal, il a fait un match superbe aussi. Ils sont vraiment des réforces à tenir, parce que vraiment maintenant l'Atlético de Madrid, il fait un petit peu peur. On dit que
c'est pour ça qu'on peut s'appuyer sur le fait que de se dire déjà pour l'Atlético, peut-être c'est moins vrai pour le Real parce que d'accord, c'est plus négatif, mais pour l'Atlético, c'est plus vrai parce qu'on sait que ceux qui sont là pour tirer l'équipe ne sont pas encore à 100%, ça veut dire qu'ils vont être encore meilleurs. Voilà. Donc ça c'est plus vrai pour le Real, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que c'est un peu la tendance de se dire on a le joueur fort et on s'appuie toujours sur le joueur fort et il faut arriver à changer cette mentalité.
Mais pour finir, les cas de Cristiano Ronaldo, c'est vrai aussi que le système de Lopetegui va libérer beaucoup plus les joueurs.
Et oui.
On a vu Benzema hier qu'il était beaucoup plus libre. Il n'allait pas chercher les centres. Il regardait pas où est-ce que c'était Cristiano Ronaldo.
C'est ça, la dépendance du.
Vraiment.
C'est lui qui a marqué notamment.
Bale aussi, on l'a vu la pré-saison, même pas hier. Ils sont beaucoup plus libérés. Et même dans les systèmes, on voyait. Je pense que c'était à la minute 80. Benzema, il était en train de défendre un corner dans la petite surface. Donc, on n'a jamais vu ça. C'est vraiment à notre équipe. Ils ont envie aussi de voir.
Il faut qu'ils s'habituent à jouer sans un peu. Leur tour, leur phare là devant. En tout cas, pour ce qui est de l'Atlético, c'est vrai que on va évidemment attendre, mais on voit que cette équipe, elle est très motivée. Et surtout, Antoine Griezmann, qui, on le sait, était convoité par le Barça, a décidé de rester parce que lui, ce qu'il voulait, et c'est très clair, c'est gagner des trophées. Et ça fait 2 en quelques mois.
J'ai confiance en ce club, j'ai confiance au coach, et c'est pour ça que je suis resté. Et voilà, aujourd'hui, ça prouve que je me suis pas trompé. Il reste encore une saison à faire, c'est que le début. Donc voilà, on va continuer à travailler et voilà, faire les efforts les uns pour les autres et à continuer à être une équipe dure à battre. On va dire que c'est un peu la culture du club, donc voilà, on est heureux de ce match et du résultat. Les titres commencent à arriver, donc voilà, comme quoi ça paye le travail. Continue à travailler, garder les pieds sur terre et toujours vouloir s'améliorer comme j'ai envie. Donc voilà, je suis sur la bonne voie et j'espère continuer comme ça. Bah, ça s'est vu que c'était mon deuxième match parce que j'étais un peu lent de temps en temps, mais voilà, ça va venir petit à petit.
Un peu lent, mais trop heureux de lever la coupe.
Parce que c'est l'autre grand titre qu'il a laissé Simeone après les matchs. Vraiment, il a dit encore une fois que les joueurs, ils ont envie de rester dans cette équipe-là. Et même, il y a beaucoup de joueurs qui rêvent de venir à l'Atlético Madrid. Et c'est vrai. Et c'est pas seulement le cas de Griezmann. On a su aussi cette semaine que Oblak, qu'il a fait vraiment un match fantastique aussi hier, il avait refusé l'offre de Chelsea. Vraiment, quand ils ont attiré Kepa pour aller directement à la Première Ligue, vraiment, il a refusé d'aller pour rester dans l'Atlético de Madrid. Donc vraiment, si Griezmann il reste, si Oblak il reste, vraiment, Costa il revient de la Première aussi pour venir directement à l'Atlético de Madrid, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce club-là.
Ouais, à ce moment, voilà. Quelque chose, et évidemment. Alors, deux trophées gagnés récemment, évidemment, c'était la Ligue Europa, on s'en souvient, contre Marseille. Et puis là, il gagne cette Super Coupe d'Europe. Le but, c'est d'être champion d'Espagne ou c'est d'être champion d'Europe?
Des champions d'Europe,
quand on est compétiteur, les deux.
Les trois.
Ah oui, je pense qu'ils vont jouer toutes les compétitions. C'est pour ça qu'ils se renforcent
qu'ils
comme
se
ça.
Ils se sont renforcés
c'est pour,
autant.
C'est pour être.
On peut plus laisser tomber. Quand on est une grande équipe, on peut plus dire on choisit une compétition.
Non, c'est difficile même pour un joueur. C'est difficile de dire je vais me concentrer sur. Franchement, je j'imagine pas un joueur se dire bon maintenant je vais jouer à moitié pour. Non, on joue à fond. On essaie.
Le Real l'a fait un peu l'année dernière, mais par défaut, on va dire.
Par la force des choses.
Si tu mets des mains comme supporter de Levante, oui, je dirais que la Coupe des Rois c'est un objectif. Tu vois, mais pour une équipe comme l'Atlético de Madrid, Real Madrid, vraiment c'est de jouer les triplettes, comme on dit. Voilà.
Ouais, faire le triplé. David, un petit mot encore.
Ce qui est fort avec cet Atlético, pour rebondir sur ce que disait à l'instant Antoine Griezmann, c'est que non seulement, et ça on le sait depuis des années avec Simeone, effectivement ça joue pour les autres dans cette équipe, mais
les
ça joue bien.
Les uns pour les autres, il le dit très bien, et on pense aussi à l'équipe de France.
Il y a plus que ça, parce que même avec tous les noms qu'on a cités, ça joue bien ensemble. Moi je suis, j'ai été hier convaincu par ce qui a été présenté, même si effectivement il y a des niveaux de forme différents, il y a des joueurs qui étaient un petit peu en difficulté, mais c'était du beau football de la part de l'Atlético, et ça c'est pas forcément ce dont on a eu l'habitude systématiquement.
Il y a cette petite touche maintenant plus séduisante, Eric.
Ouais, et puis pour revenir sur le, justement tu parles de forme, tous ceux qui ont fait le mondial vont avoir un coup de barre en
année.
Oui. Donc c'est un peu le
week-end dernier, on s'était dit, tiens, ils reviennent en forme, ouais, les Kanté, voilà, les Lloris et tout.
Ils vont être sur une
et
dynamique
là,
pour l'instant.
Varane notamment.
Mais je pense que ouais, la coupure après la préparation, ça va être difficile de gérer cette.
Surtout pour les titulaires.
C'est pour ça, pour revenir, je préfère ces matchs-là, de savoir jouer un petit peu plus tard, un mois plus tard, ou même deux mois plus tard.
Bah,
vraiment, ça sera beaucoup plus amusant.
C'est un problème de calendrier parce que tous les matchs qui sont.
Oui, puis l'autre Ligue des Champions recommence dès la mi-septembre, donc ça serait compliqué de jouer une super coupe.
C'est vrai, mais bon.
C'est ça le problème.
C'est ça qu'il y a aussi.
Thomas Lemar, très remarqué, donc l'ancien joueur de Monaco qui fait ses débuts. Alors lui, comme il n'était pas titulaire, il était un petit peu moins fatigué. Et il y avait aussi Thomas Partey. Partey, le Ghanéen, David, qui a été remarqué d'entrée et qui aide à faire ce premier but magnifique.
Ouais, alors moi je me dis que finalement, avec tous les noms qu'on a cités là, on s'intègre dans un effectif comme ça parce qu'il y a une espèce d'effet d'entraînement collectif.
C'est dynamique, c'est ça.
Que dans certaines équipes de stars, il y en a eu dans l'histoire du foot, des fois ça prend pas du tout. Et puis, il faut plusieurs saisons pour trouver quelque chose, un entraîneur, un charisme, quelque chose. Là, il y a pas. On a l'impression que ce problème-là est évacué d'entrée, et les joueurs qui sont entrés en cours de match n'ont pas dépareillé, n'ont pas. C'était vraiment. Moi, j'ai été impressionné encore une fois par cet Atlético.
Ouais. Et Simeone, hein, on sait qu'il a la patte pour ça, hein, pour faire les changements au bon moment.
Oui. Ouais. Et puis surtout, voilà, c'est ce que tout entraîneur va essayer de faire, c'est de garder une ossature pour justement permettre à ceux qui arrivent de s'intégrer rapidement. Et c'est exactement ce qui est fait à l'Atlético, et ça donne un beau résultat.
Le résultat de tout ça, cher Ani, c'est que cette année, on va pas demander à Real Madrid et Barça, tu vois, de compétir entre tous les deux, sinon qu'on va mettre un troisième vraiment, qu'il va être là-bas.
Ça,
oui, ils sont
aussi
forcés, c'est vraiment. Vrai. Je vais pas ajouter un quatrième comme les Valence, qui s'est renforcé assez bien aussi. Mm-hmm. Mais vraiment, Atlético de Madrid, Real Madrid et Football Club Barcelona, ils doivent jouer tout, les trois compétitions, vraiment au fond.
Et c'est bien parce que quand on voit la saison dernière où un Real qui est vite dépassé par alors même s'il y a l'Atlético qui est toujours à côté.
Oui, ils avaient très vite 15 points de retard.
On a tendance à se dire, voilà, il y a que le Barça et c'est fini. Non, voilà. Là, c'est, voilà, il y aura du monde.
Mais ça fait quelques années quand même, hein, l'Atlético, depuis qu'ils avaient été champions d'Espagne, c'est plus un mano à mano. On est quand même habitué à ce que ce soit
ils
toujours,
sont là tout le temps, c'est vrai.
Et notamment maintenant, quand même, Carlos.
Il s'est caché toujours Simeone dans les discours des, on va aller jour à jour après jour. On les demandait toujours s'il y a un objectif par rapport à la Ligue des Champions.
C'est vrai.
On va jouer doucement. Non, c'est année, non, clairement, ils vont jouer pour ça.
Et puis c'était aussi la bonne raison pour réussir à convaincre des joueurs de rester, et notamment Griezmann, mais d'autres, donc Oblak et bien d'autres.
Il s'est mérité aussi d'arriver dans les finales, même si on les perd, mais il ne faut pas oublier que l'Atlético de Madrid, vraiment, il était presque finaliste dans les compétitions continentales aussi. Hein.
Et la finale aura lieu dans leur jardin, puisque c'est au stade Metropolitano, hein, de
tout à fait.
Tout neuf. De,
c'est un objectif aussi.
Voilà, de Madrid qu'aura lieu
ça
la finale.
Ça ne réussit pas toujours.
C'est pas forcément.
Ça réussit même rarement, on peut dire, parce qu'on se souvient du Bayern avec Berlin, on se souvient.
On va en parler à Lyon aussi.
Ouais.
Ah oui. C'est une petite pression pour les Joe Polsonero. Joue la finale dans les Wanda Metropolitano.
Ouais. Non, je crois que ça s'appelle même plus Wanda, parce qu'ils sont partis.
Il a perdu, ça.
Ouais, ils ont perdu un sponsor en route, un chinois, mais bon, je crois qu'il y en a d'autres. On va continuer à surfer sur.
Hier, ils ont fait quelque chose de très gentil aussi dans l'Atlético de Madrid. Ils ont joué avec les t-shirts de Save the Children. Donc, tout l'argent qu'ils ont récupéré, c'est vraiment une bonne cause aussi.
C'était pour
Save the Children.
Ah oui, une ONG, Save the Children. Ouais. Comme quoi, hein, on peut aussi avoir un grand cœur.
Un geste assez joli aussi.
Oui, en cette période un peu bizarre, on parlera demain dans Radio Foot, dans le Café des Sports, de ce choix de l'Espagne d'aller jouer un match par
les États-Unis.
aux États-Unis. Mais, chers auditeurs,
ils sont contents, les
sociaux. Dévoilera le sujet et nous on en débattra demain.
Di prima intenzione e sono 50 cartelline.
Dybala, mais pour l'instant, eh bien du côté de Turin, c'est la Cristiano-mania ou alors la Ronaldo-folie, je sais pas. On va demander à Matteo comment on dit, parce que on a l'impression qu'il y a un vent comme ça de folie, de passion, s'est emparé de l'Italie. Le championnat de ces dernières années, on en parlait dans Radio Foot et souvent avec Matteo, était en train de se redresser, de devenir plus intéressant. Et alors maintenant, avec cette espèce de phare dans la nuit ou nuit et jour d'ailleurs, Cristiano Ronaldo, vous êtes allez. On en a parlé hier de son départ un peu grincheux de Madrid où il a dit au revoir à personne. C'est ça, hein, Carlos.
Ça s'appelle de l'orgueil, non, ça, non?
C'est de l'orgueil
aussi. Non,
oui, oui.
Mais c'est un club qui n'a jamais pris soin un petit peu de soin. On attend un petit peu un gros hommage, par exemple, à Raúl, qui était un mythe aussi de Real Madrid. Il n'a jamais eu son match. Mm-hmm. Donc, il y a eu pas mal de joueurs qui sont sortis.
Certaines ingratitudes, alors.
Non, voilà. Le de la club... part de Florentino, vraiment. Et je voulais dire un mot que je pouvais pas dire à la radio, même à cette heure-là, même au canard, mais depuis que Ronaldo, il a dit à la fin de la Coupe d'Europe qu'il savait pas s'il avait resté, oui. Avec les chapitres de la sélection espagnole, avec Lopetegui, avec tout ce que nous sommes marché, vraiment.
Bah oui,
Florentino Pérez, il mérite un spécial ici à Radio France
Internationale. Ouais, ouais. On a posé la question à notre correspondant pas plus tard qu'hier, et François Deuil nous voit.
Il était content de se débarrasser de Cristiano Ronaldo à la fin, tu vois, parce qu'il lui donnait pas mal de problèmes.
Faut dire qu'il a été aussi très déloyal au soir de la finale. Matteo Cioffi, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Bonjour Matteo.
Bonjour.
Alors Matteo, racontez-nous là ce vent de folie ronaldesque ou Cristiano mania.
Ouais, on peut vraiment jouer avec les mots Ronaldo mania, Ronaldo folie, Cristiano je sais pas quoi, Cristiano je sais pas là.
On espère vraiment seulement
de se régaler, mais c'est vrai que depuis que le joueur est parti en Italie à la fin du mois de juillet, toute la presse nationale, et je souligne toute la presse, même celle qui n'est pas sportive, c'est vraiment affolé et a commencé à suivre de très près, de manière détaillée, le joueur. Plein d'articles sur CRS, où il a mangé, où il est allé courir, dans quel parc, où il a fait du shopping, dans quel bar il a bu son vin. À vous de choisir. Ça a été vraiment un peu de tout et du n'importe quoi. Mais bon, tout cela a bel et bien confirmé que l'arrivée du Portugais en Italie a soulevé un énorme intérêt populaire. Et en Italie, une chose pareille, on l'avait vécu à la fin des années 80 avec Diego Armando Maradona, qui faisait parler de lui sur le terrain, mais aussi en dehors.
Bon, il n'y aura pas de concurrence véritablement, puisque Cristiano Ronaldo a été recruté. Le mercato se termine demain, Matteo. Demain, avec on va y venir un peu club par club, mais la tonalité de ce mercato en dehors de Cristiano, c'est assez sage ou pas?
Bah, c'est ça, pour la deuxième fois d'affilée, la Serie A dépensait plus d'un milliard d'euros, qui est deuxième seulement à ce qu'on a dépensé en Angleterre. Donc cela confirme un peu le fait que surtout les grands clubs italiens ont commencé à mettre, à casser les tirelires, voilà, pour essayer de relancer un football qui, il y a seulement quelques années, je dis pas qu'il était en crise, mais quand même était loin de ses niveaux, de ses meilleurs niveaux.
Oui. Un retour attendu, c'est celui de Gervinho, c'est ça? Il reviendrait de Chine, lui?
Oui, attendu par moi, parce que moi j'adorais voir jouer Gervinho.
C'est déjà important.
Je sais pas les autres s'ils ont le même intérêt, mais c'était vraiment un excellent joueur. Oui, à ce que j'en sache, il est en train de débarquer à Parme pour signer le contrat, et en plus c'est à titre définitif. Donc Parme a acheté à tous les effets Gervinho.
Mm-hmm. Ce championnat italien, Eric, vous trouvez qu'il reprend des couleurs, disons, et surtout de l'intérêt? On se souvient l'année dernière, alors là, c'était pas un mano à trois, mais un mano à deux, vraiment avec Naples, hein, où ça a duré assez longtemps. Est-ce que ça redonne de l'intérêt à ce championnat?
Ouais, c'est vrai qu'il avait perdu un peu de sa superbe. Hein,
on se souvient aussi de la Roma, l'élimination du Barça, voilà. Comme ça, ouais, on voit aussi que les clubs reviennent.
Je crois que c'est dû aussi sur la performance internationale et sur les coupes d'Europe où il y a beaucoup moins de présence. Donc forcément, les gens, je vais pas dire s'intéressent moins, mais bon, il y a beaucoup de moins de visibilité. Donc forcément, il y a une perte de vitesse de ce côté-là. Alors Cristiano arrivant. C'est quand même une lumière extraordinaire, c'est vrai. Franchement, là-dessus, il sera pas dépaysé pour le parce qu'en Espagne, c'est un peu pareil. Pour en dehors du terrain, on va le suivre partout. Il a l'habitude, mais pour ce championnat, c'est quand même une aubaine parfaite et ça va redonner un petit peu de. Alors, malheureusement pour moi, je pense que la Juventus va ouais, encore être encore plus forte.
Et, ouais, c'est ça.
Et ça va donner une grosse différence avec le reste derrière. Mais bon, il y aura peut-être certainement un championnat derrière pour la deuxième et troisième place. Ouais.
Carlos,
il y avait soit une compétitivité parce que si la Juve,
c'est ça.
La concurrence, parce que si la Juve il est tout seul, ça va arriver les mêmes problèmes qu'ici à Paris.
Exactement.
Comme avec la Ligue 1, les Paris Saint-Germain,
ou
il est loin
de
tous les restes des équipes.
Oui.
Et après, c'est vraiment en Europe, dans les moments qu'on les voit dans les compétitions européennes, qu'on peut mesurer et on peut faire une attirance par rapport les championnats italiens.
Ce championnat italien, vous le voyez un petit peu, vous le considérez un peu différemment ces temps-ci, David ?
Depuis la saison qui commence, là, peut-être particulièrement, avec quand même cette Juventus qui impressionne, en discutant un peu aussi autour du continent, on s'aperçoit que les avis sont assez unanimes vis-à-vis de cette Juve qui s'est quand même fortement renforcée. Après, il y a d'autres investisseurs aussi pour des clubs historiques italiens, et il faut voir après, bien sûr, c'est toujours pareil, l'afflux financier peut-il permettre de faire des choses sportivement raisonnables et raisonnées ? Ça, c'est un autre problème. Peut-être que sur une saison, ça se monte pas aussi facilement, pour les 2000 ans, par exemple. À titre personnel, puisque Matteo s'exprimait personnellement, je vais le faire aussi.
L'intérêt revient.
C'est vrai que la Juve va peut-être dominer son affaire, mais retrouver les deux clubs de Milan aussi. On sait qu'il y a tout autour de l'Europe, il y a énormément de supporters, notamment pour ces deux clubs-là. S'il peut y avoir un peu plus de spectacle avec ces clubs-là, un peu plus de compétitivité, ça peut être pas mal. Ouais. Aussi sur la scène européenne.
Oui, la Juventus Turin très populaire aussi du côté de nos auditeurs africains. Alors, Matteo, Cristiano Ronaldo, l'homme donc qui vient de débarquer en Italie, il aime aussi beaucoup les records personnels. Il a déjà été champion en Espagne, champion en Angleterre. Évidemment, on imagine qu'il voudrait être champion en Italie. En plus, il n'est pas tout seul dans cette équipe de la Juve. On parlait d'une équipe... Alors, il y a de la stabilité. Il y a aussi... on sait que Dybala, Douglas Costa, Khedira seront assez côtés. Et il y a même Bonucci qui revient en défense.
Eh oui, comment dire, le fils prodigue retourne à la maison. Coucou.
On lui a tout pardonné parce que, hein, je le dis à nos auditeurs, il était parti l'année dernière, évidemment, pour un gros chèque du côté de Milan, du Milan AC. Ça s'était assez mal passé, finalement, sa saison. Et il revient un peu tout penaud.
À mon avis, il devra travailler le double par rapport à ses coéquipiers pour éviter d'être sifflé, parce que c'est sûr que dans les premiers matchs, les tifosi de la Juve ne vont pas l'accueillir de manière très positive. Il a quitté le club, donc ça se comprend. C'est donc un retour très délicat pour ce joueur qui, à Milan, n'a pas connu une saison positive. Pourtant, à son arrivée, le club lui avait tout de suite donné le brassard de capitaine. Mais bon, l'histoire d'amour avec la AC Milan n'a pas eu lieu. Bon, tu as préféré faire retour dans la ville où vit sa famille et où joue le club, qui lui a permis de s'affirmer. Et comme c'est lui-même qui l'a dit, connaître le goût de la victoire. Cette chose-là va vraiment plaire beaucoup aux tifosi de la AC Milan.
Oui. Alors un huitième titre, parce que il vient d'en empiler juste 7 consécutifs, cette Juventus,
juste 7.
Alors un huitième, on s'habitue.
Ouais, mais on s'habitue à la victoire, hein, c'est normal. Hein. Donc, quand on est compétiteur, on s'habitue à la victoire. Mais pour parler de Bonucci, à Milan, il était quand même pas aussi bien entouré qu'à la Juve, donc
oui,
forcément
il va retrouver son
copain, beaucoup plus difficile.
Chiellini, Barzagli.
Ouais, donc là il revient, comme on a dit, à la maison, et ça va être beaucoup plus facile l'intégration et puis de retrouver les repères.
Hein. Ouais, cette Juventus.
Il pourrait avoir prévenu à Higuaín aussi.
Ouais, aussi.
C'est la maison.
Ouais, on va y venir à Higuaín, mais pour ce qui est de cette Juventus, Carlos, c'est l'épouvantail italien pour tous les autres concurrents. L'effectif déjà impressionne.
Moi, ça m'a beaucoup impressionné toujours, même avec l'équipe de l'année dernière, même avec cette équipe aussi, c'est pareil, c'est une super équipe.
Ouais.
Il faut pas oublier
aussi,
et Cristiano Ronaldo, s'il a pris la détermination de partir là-bas, c'est parce que c'est une équipe très attirante aussi. Évidemment,
c'est sûr.
Il va pas partir, je sais pas quoi, dans une autre équipe italienne. Mais maintenant, vraiment, quand il a parié pour la Juve, c'est parce que la Juve, il est une super équipe, vraiment.
Ouais. David.
Oui, d'autant plus que
à son âge avancé, Cristiano lui aussi a besoin d'être bien entouré, je pense.
Ah, c'est sûr.
C'est pas mal.
Oui, mais après, voilà, je veux dire, je trouve aussi que, voilà, il part du Real, il arrive à la Juve, ça peut rester une progression quand même. C'est-à-dire que, voilà, il se donne un nouveau challenge.
Ah oui, oui.
Dans un style différent.
Pour lui, voilà,
jeu,
exactement.
Hein.
Donc, il y a quelque chose
à l'italienne.
Ouais.
Matteo, le 8e titre, déjà, pour la Juventus, ça paraît presque une évidence ou non? Où il va falloir compter avec des rivaux.
Bah, mon ami, il faudra compter avec des rivaux, j'espère bien, parce que j'espère bien de me régaler cette année. Il y a au moins 4 ou 5 équipes qui sont là dans la grille de départ. Je dirais pas au même niveau de la Juve. Mais bon, la Juve, on se demande quel est son objectif. Car bon, l'arrivée de Ronaldo et les 100 millions d'euros dépensés pour s'assurer ce joueur font en sorte que la Vidane soit appelée à inscrire dans son agenda comme premier objectif de cette saison la victoire de la Ligue des Champions, effleuré seulement pour deux fois dans les 4 dernières années. Donc c'est un rêve un peu qui devient une nécessité pour ce club.
C'est un peu comme l'Atlético qui a perdu deux fois et c'était face au Real, et là évidemment la Juve aimerait bien gagner. Alors est-ce que Naples, on se souvient de cette équipe l'année dernière qui a vraiment fait suivi le rythme absolument affolant de cette Juventus pendant très longtemps, a finalement fini par s'écrouler.
Ouais, c'est ça.
Hein,
c'est
et oui, mais c'était dans les dernières journées, c'était assez impressionnant. Alors Maurizio Sarri, l'entraîneur un peu fou de Naples, est parti du côté de Chelsea, et voilà le polyglotte Carlo Ancelotti à la tête de cette équipe de Naples. Écoutons-le d'ailleurs. Alors, il est polyglotte, mais là quand même on l'entend s'exprimer en italien.
La Juventus n'a pas tous les pouvoirs. C'est un grand club qui a certes remporté les 7 derniers titres, et ce sera un rival dur à battre. Mais il n'y a pas que la Juve. Il y a l'Inter et d'autres équipes. On a vu la saison dernière que le titre, la relégation ou les places en Europe se jouaient sur la fin.
Et voilà, il faut tenir le marathon jusqu'au bout. Est-ce que Carlo Ancelotti, c'est l'homme, Matteo, vu en d'Italie, qui peut faire franchir une étape à ce Napoli?
Tout à fait, pourquoi pas. Il faut dire que Naples, cette année, a décidé quand même de ne pas donner lieu à un renouvellement de l'équipe, car bon, presque tous les meilleurs joueurs sont restés au club, bon, sauf Jorginho qui a préféré suivre Sarri en Angleterre. Le club a donc décidé d'introduire quelques nouvelles recrues pour augmenter surtout la qualité de l'équipe, cela avec, par exemple, Simone Verdi, il est en auto un milieu de terrain italien, ou l'espagnol Fabien Ruiz. Mais bon, la grande novité, donc, elle est là, elle est assise sur le banc, car aux commandes on trouve Carlo Ancelotti, qui aura donc cette tâche de faire oublier son prédécesseur très sympa, Maurizio Sarri, qui est un grand héros aux yeux des Napolitains. Et ça, déjà, c'est un dur travail pour Carletto Ancelotti. Ancelotti, sur la carte, est moins spectaculaire de Sarri, mais on pense qu'avec lui, l'équipe aura un jeu plus imprévisible, visible, peut-être plus surprenant, vu que Ancelotti aime changer surtout beaucoup ses schémas tactiques.
Ouais. Carlo Ancelotti, alors il était parti d'Allemagne, n'est-ce pas, David, un peu discrètement et un peu tristement surtout, mais lui, là-bas, comme en Espagne, comme ailleurs, il a aussi empilé les titres.
Oui, alors mais c'est rigolo que Matteo dise de Ancelotti qu'il puisse prévoir un jeu, enfin qu'il puisse proposer un jeu imprévisible, parce qu'il a écrit des bouquins pour raconter sa tactique. Il en a écrit plusieurs. Tous ses schémas tactiques sont dans les livres. Oui, c'est vrai.
Pour noyer le poisson.
Il a écrit plusieurs livres, donc.
Ouais. Plusieurs livres.
En tout cas,
les
caractères, il est bien différent.
Moins volcanique, on va dire, n'est-ce pas?
Oui, moins volcanique. C'est un homme qui donne des calmes. Vraiment, c'est très sympathique, même avec la
presse.
Oui,
ça c'est même en relationnel avec les joueurs.
Et pour revenir sur les Naples, c'est un travail de continuité, c'est pas seulement Sarri, c'est quelque chose qu'il avait pris Benitez depuis déjà un moment. Vraiment, la continuité, c'est fait avec trois entraîneurs complètement différents, et vraiment, c'est ça les projets des Naples.
On les avait vus d'ailleurs en Ligue des Champions l'année dernière, ils avaient éliminé Monaco, si je ne me trompe pas. Avant d'être éliminé, il me semble, hein, Matteo, que c'était eux qui avaient éliminé en tour. C'est pas eux en tour préliminaire. Bon, enfin, il y avait eu j'ai un trou tout d'un coup. Bon, enfin, en tout cas, je me souviens qu'on les avait vus et que certains joueurs étaient de l'effectif étaient extrêmement séduisant.
Ils ont eu un problème. Je ne sais pas si c'est un problème
physique.
C'était il y a deux ans, je pense.
Koulibaly, oui.
Oui,
je sais peut-être bien. Oui, oui.
Je ne sais pas si c'est un problème physique sur cette fin de saison, parce qu'ils étaient impressionnants. Je trouvais qu'ils étaient impressionnants et de sombrer comme ça à la fin. Alors bon, sombrer, c'est tout ça. Il y a grand mot, mais voilà, ils ont eu cette coupure là. Et peut-être que c'est ce qu'ils recherchent justement avec Ancelotti, c'est d'arriver à
tenir,
à aller jusqu'au bout et d'atteindre au moins les objectifs, quoi.
À tenir jusqu'au bout, oui.
Non, c'est difficile d'analyser cette chute de Naples la saison dernière. Je pense que
c'était dans les dernières journées.
Oui, c'est ça. C'était juste avant le voilà.
Peut-être Mathéo... était-il en sur-régime. Je ne sais pas.
Mathéo, ils étaient en sur-régime, c'est ça l'explication de Napoli.
Bah non, je voudrais bien dire qu'à la fin du championnat, ils étaient devenus trop prévisibles. On avait vraiment compris comme cette équipe jouait. C'était vraiment un très beau football, celui de Maurizio Sarri. Il y a aucun doute sur ce fait. Mais à la fin, ils s'étaient retrouvés un peu à bout de souffle. Ils avaient un peu perdu la volonté de lutter sur chaque ballon. On les avait vus aussi même très fatigués, parce que c'est un jeu très physique, celui de Maurizio Sarri, qui demande beaucoup, surtout aux attaquants. Vous vous rappelez Mertens n'est pas un avant-centre, mais on lui avait demandé de faire l'avant-centre, de faire aussi l'ailier, de faire un peu le joueur qui arrivait à couvrir plusieurs rôles en attaque. Et à la fin, Mertens est arrivé assez épuisé, on l'a vu aussi au championnat du monde.
Mathéo, alors il y a aussi évidemment les clubs romains et les clubs milanais. Parlons de la Roma. La Roma qui, l'année dernière, elle aussi, alors on se souvient donc de ses faits d'armes en Ligue des Champions, la Roma qui a recruté notamment un champion du monde, le français Steven Nzonzi, ces dernières heures.
Ah oui, on peut dire que du côté de la Louvre, le mercato a été très enflammé. Les départs de Raja Nangolan et tout au début avaient blessé le moral des supporters qui ont retrouvé le sourire avec des nouvelles recrues qui ont relancé les espoirs dans la capitale. Javier Pastore a envie vraiment de montrer sa valeur après des hauts et des bas à Paris. Grande curiosité aussi de voir à l'œuvre le jeune Kluivert, qui est le fils de Patrick Kluivert, qui a déjà montré dans les matchs amicaux d'avoir un certain talent. Et en plus, il y a dans le but, il n'y a plus le Brésilien Alisson qui a quitté l'équipe, mais à sa place, il y a ce Suédois. Oh mon Dieu, la Suède, pardon, j'en ai parlé, mais bon. Robin Olsen, voilà. Vous l'avez dit.
La Suède, David. Avec Matteo, c'est le joke. C'est la Suède qui a éliminé les espoirs italiens de Coupe du Monde.
Pas que les Italiens, ça peut consoler.
Ça le console pas. Ah, ça vous console pas, Mathéo, que ce soit pas que vous.
Non, ça me consolera jamais.
Un petit mot sur la Roma.
Voilà, en plus, non, on disait, il y a aussi un champion du monde, Steven Nzonzi, qui a été accueilli comme une star par les tifosi de la Roma à son arrivée en ville. Oui. Donc, en tout, ils ont acheté 12 joueurs, ils ont dépensé 112 millions d'euros. Donc, à mon avis, on peut vraiment considérer la Roma à tous les effets comme l'adversaire numéro 1 de la Juve.
12 millions finalement.
Il a dépensé pas mal d'argent. Hein. Je pense que c'était les championnats qu'il a mis beaucoup plus après les Anglais.
Hein, oui, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, Mathéo. Un petit mot sur la Roma.
Parce que quand tu perds Nainggolan et tu récupères Nzonzi et Pastore, en fait, c'est comme si tu avais pris les extrêmes. Parce que récupères, je parle en tempérament en fait.
Bien sûr.
C'est-à-dire que tu récupères deux calmes qui sont au milieu de terrain, qui jouent un peu plus. Plus technique certainement, mais tu perds en agressivité. Et je me dis bon, on va voir ce que ça va donner, mais c'est plutôt intéressant par rapport à l'arrivée de Kluivert aussi, qui fait que il va être bien servi si Pastore arrive à faire une belle saison.
À Paris qui est Timothée Weah. Pour terminer, Mathéo, les Milanais. Alors parlons du Milan AC. Ce Milan AC qui s'est renforcé, mais d'abord dans l'encadrement, on a Leonardo, l'ancien parisien qui revient comme directeur sportif, et puis Paolo Maldini.
Ah oui, commençons par le Brésilien. Même s'il y a eu cette parenthèse à l'Inter, Leonardo fait partie de l'histoire de l'AC Milan et a toujours montré d'être un grand connaisseur de football, de savoir choisir les jeunes talents. Et c'est pour cette raison que la nouvelle propriété américaine du club lui a confié le rôle de directeur général, qui consistera On outre à couvrir un rôle de liaison entre les dirigeants et l'entraîneur et ses joueurs, car l'année passée, les joueurs n'ont presque jamais vu leur président, ce fut moins Yang Gang Li. Mais bon, Paolo Maldini, à son tour, après 9 ans, a décidé de faire son retour à la maison. Dans cette première phase, il sera le bras droit de Leonardo pour, apprendre le métier de dirigeant. On espère bien. Il y a une philosophie à l'AC Milan, qui est celle de reconnaître le Milan au milaniste.
Oui.
Oui, mais c'est important.
En tout cas, Leonardo, on sait qu'il est très très fort à son poste.
Leonardo, c'est lui quand même qui a mis le PSG sur les bonnes rails.
Il a fait la base. Hein.
Donc. Et puis on sait qu'il a un bon réseau et il fait partie de, comme on l'a dit, du passé de Milan. Donc avec Maldini, ça représente les anciens qui vont redonner un peu de lumière, parce que c'est pareil, je pense que le Milan AC s'est perdu un peu en route.
C'est exactement ce qui se passe à Dortmund avec Matthias Sammer qui est revenu très proche du président, et puis Sébastien Kehl, ancien joueur historique milieu de terrain qu'on pourrait comparer à Maldini, bon an mal an, pareil pour redonner aussi la bonne direction et s'occuper de la section
et
professionnelle.
L'âme.
Donc
repartir
là, il y a
sur les bases,
un vrai parallèle.
Et oui, parce que les capitaux sont de plus en plus internationaux, donc il faut ramener aussi un peu la proximité. Matteo, alors juste pour terminer, cette équipe du Milan, ça serait une équipe selon vous très compétitive. On sait que Gennaro Gattuso avait déjà bien travaillé l'an dernier.
Oui, en effet, le Rossoneri, à leur tour, ont vraiment secoué le rose avec le recrutement de Gonzalo Higuain, qui est arrivé à Milan aussi grâce à Leonardo, il faut le souligner. Mm-hmm. Donc il y a Gonzalo Higuain en attaque et Mattia Caldara, qui est le central défensif de la Nationale et qui est rentré dans l'affaire Bonucci. Ils ont décidé d'échanger Bonucci pour Caldara. Ajoutons aussi le français Bakayoko, qui à Milan cherchera sa revanche après une saison assez négative au Chelsea de Antonio Conte.
Ouais.
Donc c'est une équipe qui sûrement s'est renforcée. Et faudra voir si cette nouvelle révolution aura des effets positifs, parce que l'année passée on avait dit plus ou moins les mêmes choses et puis le résultat final n'a pas vraiment été, comment dire, inoubliable.
Oui, c'est ce qu'on peut dire.
Non, mais ça s'inscrit sur le temps, je pense qu'ils vont pas,
oui,
ce sera pas spécialement sur cette saison. Voilà.
Changement d'investisseur et tout ça.
Progressif.
Et donc, changement de projet. Merci beaucoup, Matteo.
Je voulais souhaiter des bons courage à Matteo.
Merci.
Et vous laisser régaler, vraiment, avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Ben, c'est tout l'univers de Cristiano Ronaldo.
c'est
Georgino, la mère de Cristiano, la sœur de Cristiano, le fils de Cristiano, la petite amie de Cristiano.
Les réseaux sociaux de
Cristiano.
Tu vas
pas t'ennuyer, Matteo. Hein.
Les paparazzi.
Non,
aussi,
je crois pas. Non, mais lui aussi, il va pas s'ennuyer.
Bon courage.
Merci beaucoup, Matteo. Et donc, premier match, eh bien, justement, ça sera la Juventus Turin et ça sera samedi que commencera le championnat. Merci, Matteo. À plus tard, donc.
Merci à vous.
On profite de la visite dans notre studio de David Lortolari. Je plaisante, David. Et de vos lumières. vous avez votre carte, c'est bon alors. Pour revenir sur un sujet qui a malheureusement un peu traversé l'été comme ça et qui aura des conséquences, mais peut-être finalement qu'un jour ça s'arrangera, c'est autour de Mesut Özil. Mesut Özil qui, alors on sait que quand une équipe perd, surtout en Coupe du Monde et qu'on est champion en titre, la France s'en souvient en 2002, n'est-ce pas ? Le retour sur terre est difficile. En tout cas, quand les champions du monde sont rentrés en Allemagne, éliminés dès le premier tour, eh bien Mesut Özil, quelques jours après, a annoncé qu'il se retirait de l'équipe nationale. Il prenait sa retraite, il n'a que 29 ans. Il était champion du monde au Brésil et il a surtout dit qu'il était blessé par les attaques. Il sentait que quand il gagne, il est allemand et quand il perd, il est turc. Alors c'est cette histoire de la photo notamment prise aux côtés de Erdogan qui a eu des conséquences. Mais est-ce que Mesut Özil, vraiment, ça a été un débat énorme d'ailleurs du côté du Bundestag.
Ça se poursuit d'ailleurs ce débat. On est encore en train de... Alors l'expression n'est pas belle du tout, hein, peut-être était excessive, mais on est encore en train de laver le linge en Allemagne. Le président de la fédération est menacé et fragilisé. Le directeur sportif Birof aussi. On lui demande des comptes à tout le monde, aux sélectionneurs aussi, dans les prochaines semaines qui vont arriver. Et puis, effectivement, le débat a largement dépassé le cadre du football.
C'est vrai que Ozil n'a pas été merveilleux sur la Coupe du Monde, non, mais comme tous ses camarades.
Non, ouais, ça
une pas tous, pas tous, mais lui particulièrement.
Ouais, non, alors juste pour sur ce chapitre purement sportif, attention quand même. C'est vrai que parfois il traverse les matchs de façon fantomatique. Mm-hmm. Néanmoins, sur les derniers temps et aussi en club, les statistiques parlent quand même pour lui. Alors ce ne sont que des chiffres. Mais même s'il apparaît et c'est une réalité visuelle sur le terrain comme parfois absent, en fait ça reste un joueur important et il me semble que les choses actuellement ont largement dépassé le cadre du raisonnable. Toutes les discussions au-delà du football et tout ça sont très très amplifiées et c'est un malaise qui s'est créé qui va être difficile à refermer d'ailleurs.
Eric.
Ouais, en fait c'est un problème d'interprétation, c'est-à-dire que je comprends ce que tu dis parce qu'en fait quand il dans les matchs même en Coupe du Monde il a été avec le ballon il a été bon.
Oui.
Sauf qu'il n'a pas été décisif et en fait ce qu'on attendait de lui c'est d'être décisif et comme il a fait que la moitié du boulot, on a dit Ozil n'a pas été bon. Mais il a quand même dans le jeu, il a essayé des choses. Les Allemands n'ont pas été mauvais dans le jeu non plus. Attention, ils ont été éliminés parce qu'ils n'ont pas eu le joueur qui faisait la différence, qui marquait les buts au moment où ils ont dominé. Mais c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire qu'on a vu un Ozil qui avait le ballon et qui était bon dans la construction, mais qui n'était pas décisif. Et comme il a eu certains moments des moments de frappe ou des choses comme ça où il a jamais pris ses risques. Il s'est retrouvé fantomatique parce qu'on a eu l'impression qu'on n'avait pas d'Ozil, mais il était là quand même. Et je comprends ce que tu dis.
Après, dans sa déclaration, Annie, paraît un peu simpliste, un peu brutal, mais il y a forcément du vrai. C'est un ressenti déjà d'une part qu'il exprime, et il y a forcément du vrai. Alors ça, c'est un peu triste. Et ça,
alors qu'il représentait finalement le symbole finalement de l'intégration, hein, c'est ça. Voilà. Allez-y.
C'est ce qui avait semblé prendre depuis que l'équipe des jeunes avec celle de Ozil, de Neuer, de Khedira qui avait eu du succès il y a un peu plus de 10 ans chez les jeunes. On avait eu l'impression que ça prenait, que ça représentait aussi le pays et sa diversité. Et lorsque l'échec est retentissant comme là, on a l'impression qu'on se raidit, qu'on se recroqueville sur des réflexes qui, moi, me paraissent encore une fois simplistes et un peu
sévères.
Et archaïque, alors que c'est pas forcément la vérité du moment, mais malheureusement ça rappelle peut-être quelques courants de fond qu'il peut y avoir aussi dans la société en général lorsque les choses sont compliquées.
Il avait dit, Carlos.
Je voulais profiter, on n'a pas beaucoup de temps pour te poser une autre question. C'est par rapport aussi, on fait un feuilleton maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à Sané quand Love il a décidé de pas le recruter pour la Coupe du Monde?
Il y a eu d'abord cette
le roi Sané, hein.
Cette forte surprise. Il était facile de faire un argumentaire.
Mais
pour
le débat est constant maintenant.
Oui, d'autant plus que maintenant il va falloir lui ouvrir à nouveau la porte pour les sélections qui viennent et que ça va être fait aussi parce que il y a des arguments de jeunesse, parce qu'il y a des arguments ce qui a manqué à la Coupe du Monde.
Il y a besoin d'un renouveau. Ouais.
Il y a eu un questionnement, une incompréhension, mais il était facile aussi quand même dans l'autre sens de faire un argumentaire et un raisonnement en faveur de la décision qui avait été prise. Moi, on m'avait questionné à ce moment-là, c'était facile de dire le sélectionneur veut un groupe très cohérent, avec aucune tête qui dépasse.
Mais
ce qui avait fonctionné 4 ans avant. Oui, ça avait fonctionné 4 ans avant. Die Mannschaft, l'équipe. Et puis là, il y avait besoin d'autre chose.
Une question alors au sujet d'Ozil, qui par ailleurs a repris ses crampons, qui joue avec Arsenal, dans le nouvel Arsenal d'Unai Emery. Est-ce que c'est parce qu'il dit dans sa déclaration, quand il prend congé sur Twitter, il dit je ne jouerai plus avec l'Allemagne tant que je ressentirai, donc on parle du ressenti, ce racisme et ce manque de respect. Ça veut dire que c'est une décision sur laquelle il peut revenir.
Ça veut dire que le contexte, mais il faudra un contexte riche en sa faveur. Ça veut dire que le contexte peut permettre qu'il revienne en sélection. Oui, évidemment, mais pour plein de raisons. Avec ce sélectionneur-là, comme avec les sélectionneurs futurs, avec celui-là.
Joachim Löw l'avait toujours défendu, en tout cas.
Exactement, et c'est ce qu'il a eu l'habitude de faire avec des joueurs aussi qui étaient mis en question dans leur club. Donc de ce point de vue-là, pour moi, ça fait aucun doute. Un retour est possible, mais ça nécessite aussi de convaincre l'entourage de Mesut Özil, le joueur lui-même. C'est pas une mince affaire.
Ça veut dire un peu, j'ai besoin d'amour, donc envoyez-moi de l'amour et je reviens. C'est un peu ça.
Il va aller prendre une leçon avec Cristiano.
C'est la vérité.
Oui, mais bon, c'est vrai qu'aussi ils sont soumis parce qu'ils sont très exposés à tellement de choses et de remarques. Merci beaucoup, David,
merci
de nous avoir éclairé sur ce sujet. Et la semaine prochaine, vous serez là parce qu'on parlera du
championnat.
Du championnat allemand, la Bundesliga, qui recommence, non pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, pas ce week-end, disons. Merci Richard Rifono d'avoir été là. Merci aussi à Pierre Guérin qui m'a aidé à préparer l'émission. Et on vous dit rendez-vous à demain pour le Café des Sports. Merci à tous.